Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Jean Castex à l'université d'été du MEDEF. Au moins un quart des 100 milliards d'euros prévus pour relancer l'économie bénéficiera aux PME et TPE, indique le Premier ministre. Et l'activité partielle est maintenue dans les conditions actuelles au moins jusqu'au 1er novembre, analyse dans un instant d'Anne-Laure Jumet. Nous allons organiser une rentrée scolaire dans les conditions les plus normales possibles, promet Jean Castex. La conférence de rentrée du ministre de l'Éducation n'a pourtant pas été tout à fait normale. Jean-Michel Blanquer a longuement détaillé le protocole sanitaire. Hakim Kasmi est au ministère pour France Culture. Dominique Perben a remis au garde des Sceaux son rapport sur la profession d'avocat. Il propose des mesures pour soutenir les cabinets fragilisés, pour revaloriser le barème de l'aide juridictionnelle, mais aussi pour inciter les avocats à faire évoluer leur offre. Explication de Thomas Larabie. Au lendemain d'une tentative de médiation allemande entre Athènes et Ankara, la Turquie hausse le ton. Le président Erdogan se dit prêt à l'affrontement pour défendre les droits de la Turquie en mer Égée, en mer Noire et en Méditerranée. Mais d'abord cette question, faut-il y voir un triomphe du politiquement correct ou une démarche respectueuse des droits humains ? Dans la version française de « Dix petits nègres », roman culte d'Agatha Christie, le mot « nègre » a disparu. Le titre devient « Ils étaient dix ». La nouvelle traduction, signée Gérard de Cherger, paraît aujourd'hui aux éditions du Masque. Agatha Christie était là avant tout pour divertir. Elle n'aurait pas aimé l'idée que quelqu'un soit blessé par une de ses tournures de phrases, explique James Pritchard, son arrière-petit-fils qui gère les droits littéraires et médiatiques des œuvres de la romancière. La France s'aligne aujourd'hui sur les éditions anglaises, américaines et toutes les autres traductions internationales déjà modifiées, nous explique Anne Martinetti, écrivaine et éditrice, elle est spécialiste d'Agatha Christie.
Agatha Christie elle-même, de toute façon, avait déjà changé ce titre. Elle l'avait changé lorsqu'elle avait adapté le roman pour la scène, en faisant du roman une pièce de théâtre, 5 ans plus tard en fait. Donc elle l'avait appelé et maintenant il n'en restera aucun. Et c'est sous ce titre-là que le roman s'est vendu en Grande-Bretagne et dans tous les pays de langue anglaise pendant plusieurs décennies. Je pense qu'en France, on n'a pas vu la nécessité de changer ce titre, tout simplement parce que ce titre, en réalité, ne pose pas de problème. Ça pourrait être 10 petits blancs, ça pourrait être 10 petits indiens, comme c'était le cas aux États-Unis. Donc, nègre, indien, marionnettiste, on pourrait mettre toutes les nationalités ou toutes les couleurs de peau à la place, ça ne change rien au livre. Il y a un auteur que l'on ne peut pas taxer de racisme ou d'antisémitisme, comme je l'ai parfois lu, c'est Agatha Christie. On voit bien que les pires criminels qu'elle met en scène sont des bons Anglais avec des pédigrés impeccables et des boutons de manchette en nacre. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de soupçon à avoir. Donc, le changement de titre n'est pas pour moi un problème. D'autant plus que, à mon avis, ça ne va pas faire diminuer les ventes, ça va faire découvrir sans doute le texte à des générations qui ne le connaissent pas encore. Donc, c'est une manière aussi de renouveler le lectorat. Donc, pour moi, tout ça, ça fait partie de la bonne gestion d'un héritage littéraire. Je trouve que c'est la mettre en valeur et moi, j'en suis ravie.
Anne Martinetti répondait à Margot Siffert. Après avoir fait sa rentrée médiatique ce matin sur France Inter, Jean Castex s'est rendu à l'université d'été du MEDEF. Le chef du gouvernement a commencé à dévoiler le plan de relance qui sera officiellement présenté dans 8 jours. Anne-Laure Jumet, vous êtes en direct de l'hippodrome de Longchamp où se tient cette université d'été. Les annonces du Premier ministre semblent plutôt répondre aux demandes de la première organisation patronale.
Oui, avec d'abord une annonce qui offre un peu d'air aux entreprises, la prolongation d'un mois du régime de chômage partiel dans les conditions actuelles. Le remboursement par l'État des salaires à hauteur de 85% durera donc jusqu'au 1er novembre au moins pour tout secteur et taille d'entreprise. Un quart du plan de relance sera par ailleurs consacré aux TPE-PME, a annoncé le Premier ministre. Et puis on a eu des confirmations sur les baisses d'impôts à destination des entreprises. 10 milliards d'euros par an seront débloqués pour baisser les impôts de production payée sur le chiffre d'affaires et non sur les bénéfices. Et le gouvernement poursuivra aussi la baisse de l'impôt sur les sociétés. Une relance par l'offre et l'investissement, c'est la priorité assumée par Jean Castex, qui souligne au passage que les revenus des ménages ont été préservés pendant la crise.
Entre le discours de Geoffroy Roux-de-Bézieux et celui de Jean Castex, vous avez noté de nombreux points de convergence, Anne-Laure.
Oui, sur la question du port du masque en entreprise, obligatoire à partir de mardi prochain, le président du MEDEF demandait du pragmatisme. Jean Castex confirme que c'est bien le chemin emprunté.
Je crois pouvoir vous dire, en fonction des premiers retours dont je dispose, qu'il y aura la place pour des solutions pragmatiques. Et en tout état de cause, les règles seront clarifiées et complète pour le 1er septembre.
Même longueur d'onde sur le télétravail, le président du MEDEF demande de la souplesse, des accords d'entreprise. Jean Castex répond qu'il faut effectivement trouver le bon équilibre entre présentiel et télétravail dans le cadre d'un dialogue. « J'ai besoin de vous », a enfin dit le Premier ministre au patron réuni ici à l'hippodrome de Longchamp. « Besoin de vous notamment sur l'emploi des jeunes. Le travail sera d'ailleurs, selon Jean Castex, la porte de sortie de la crise. »
Et après ce discours de Jean Castex, le président du MEDEF a réagi à ces annonces, notamment à la baisse des impôts de production. On l'écoute.
L'année prochaine, il n'y aura pas beaucoup d'entreprises qui vont être bénéficiaires. Incapable de dire combien. Donc elles vont quand même payer des impôts. C'est toute la spécificité du système fiscal français vis-à-vis des entreprises. On paye des impôts même quand on ne fait pas de profit. Et donc cette baisse d'impôts de production, elle va intervenir au 1er janvier 2021. Ça veut dire que les usines, pas que les usines, mais enfin les entreprises, notamment industrielles, vont payer moins d'impôts, elles vont payer encore, mais moins d'impôts. Et donc ça veut dire plus de compétitivité, plus de marge par rapport à une situation qui est forcément dégradée. Hein. La marge d'entreprise française a commencé à se dégrader. Donc c'est de l'argent pour l'investissement, pour l'emploi.
Geoffroy Roux-de-Bézieux à l'Université d'été du MEDEF. Merci à vous Anne-Laure Jumet et à Olivier Branger pour les moyens techniques. Ce matin, le Premier ministre avait annoncé 2 milliards d'euros d'aide à la culture et il a aussi promis des moyens supplémentaires pour la justice avec la création de 550 emplois de plus dans la loi de finances 2021, des postes de greffiers et de magistrats. Quant aux avocats, leurs difficultés sont pointées dans le rapport de Dominique Perbène, l'ancien garde des Sceaux l'a remis à la mi-journée à Éric Dupond-Moretti. Il met en évidence les très fortes inégalités au sein de la profession et fait 13 propositions pour renforcer les cabinets d'avocats, Thomas Larabi.
Oui, mais il faut d'abord composer avec la défiance des avocats échaudée par de nombreux rapports tombés aux oubliettes ces dernières années. Alors au moment de la remise de ce nouveau document, le garde des Sceaux a tenté de les rassurer. Écoutez.
J'ai assuré que ce rapport ne dormirait pas dans un tiroir du sommeil de l'injuste. On va faire avec ce travail très complet un travail qui va, je l'espère, aider la profession d'avocat. Il a soulagé parce que c'est une fois encore, et on est d'accord sur ce constat, une profession qui est en grande difficulté.
Mais au moment de lire le texte, les représentants de la profession ne sautent pas au plafond. Sur l'aide juridictionnelle, l'aide qui rémunère les avocats pour défendre les citoyens en difficulté financière, eh bien les syndicats espéraient qu'elle soit doublée, cette aide, mais la commission ne propose qu'une augmentation de 25%. Rapide calcul, c'est 4 fois moins qu'espéré. Autre piste de ce rapport pour améliorer la rémunération des avocats, un timbre fiscal de 50 euros dont devront s'acquitter les justiciables au moment de saisir les juridictions commerciales ou civiles. Les syndicats sont contre encore puisqu'elles pèsent sur les citoyens, ce qui ne va pas dans le sens d'un meilleur accès aux droits. Bref, clairement, les mesures économiques n'emballent pas le syndicat des avocats français. Écoutez sa présidente Estelia Araez.
Évidemment que si une partie de ces propositions sont suivies, nous en serons contents, mais ça sera nettement insuffisant. Et on a le sentiment que c'est l'arbre qui cache la forêt et que le gouvernement s'imagine que, en nous faisant un petit peu plaisir sur ces quelques mesurettes, nous abandonnerons notre combat contre la réforme des retraites. Et c'est absolument pas le cas, qu'on se le dise.
Et Stélia Arès n'en démord pas. Ce qu'il faut, ce sont des moyens, tout de suite et maintenant, en pleine crise sanitaire qui paralyse plus que jamais les tribunaux français.
Thomas Larabi. La rentrée scolaire 2020 ne peut pas ressembler à une rentrée normale, mais l'important, c'est d'être tous réunis. C'est le message qu'a tenté de faire passer Jean-Michel Blanquer lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Alors que l'épidémie de coronavirus est repartie à la hausse, le ministre a dû longuement détailler le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires, Hakim Kasmi.
Effectivement Aurélie, hein. Jean-Michel Blanquer a donc confirmé que la rentrée aurait bien lieu dès le 1er septembre et ce, malgré la hausse du nombre de contaminations en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en région parisienne. Le ministre a expliqué que ce sera bien le protocole de juillet qui sera appliqué, un protocole qu'il estime simple et clair. Jean-Michel Blanquer.
Lorsque dans un territoire la circulation d'un virus est plus active, nous pouvons prendre des mesures spécifiques. Ces mesures spécifiques peuvent être une accentuation du protocole sanitaire actuel. Par exemple, rendre le fait qu'il y ait du nombrassage obligatoire et non pas seulement quelque chose de recommandé. Et donc ça, c'est la situation actuelle. Si dans le futur, il devait y avoir une circulation encore plus active du virus, ce qui est possible, alors nous rentrerions dans d'autres protocoles sanitaires, soit de fermeture d'écoles avec de l'enseignement à distance, soit de situations hybrides avec des petits groupes et une prise en charge des enfants d'une autre manière. Nous n'en sommes pas là, mais nous sommes préparés à ça au cas où cela arrive.
Le ministre de l'Éducation qui a également confirmé que désormais le port du masque pour les adultes serait obligatoire dès la maternelle. C'était une demande très forte des syndicats. Jean-Michel Blanquer.
Il n'y a pas d'exception au port obligatoire du masque. Nous avons décidé, et ça c'est par rapport à ce qui avait été dit en juillet, nous avons justement décidé une accentuation de cette mesure de port du masque obligatoire en estimant qu'en fait il n'y aurait pas d'exception au fait que le port du masque est obligatoire pour les adultes. Précisément pour tenir compte du fait que le virus est en circulation plus active actuellement qu'il y a quelques semaines, et donc c'est une forme d'accentuation de la sécurité sanitaire que nous avons organisée.
Enfin, Jean-Michel Blanquer a annoncé une prime exceptionnelle de 450 euros pour les directeurs d'école, notamment ceux qui ont travaillé pendant le confinement pour accueillir les enfants de soignés, de policiers issus de la grande distribution. Quant à la hausse des salaires promise par Jean-Michel Blanquer, ce dernier a confirmé qu'elle aurait bien lieu avec une enveloppe de 400 millions d'euros à partir de 2021, et ce, malgré le contexte économique et de crise.
Hakim Kasmi en direct du ministère de l'Éducation nationale avec Marcos Darras à la technique. Et illustration de l'inquiétude suscitée actuellement par la crise sanitaire, Paris vient d'être placé en zone rouge par la Belgique. Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne sont concernés. Explication de l'ex-Milota à Bruxelles.
Le ministère belge des Affaires étrangères met à jour sa liste des pays autorisés ou non pour les voyages chaque jour. Cet après-midi, c'est Paris qui a été placé en zone rouge. Cela signifie que les Belges et les résidents n'ont officiellement plus l'autorisation de se rendre dans la capitale française, sauf en cas de nécessité absolue. S'ils se déplacent dans les zones rouges, les habitants doivent se soumettre à un test au coronavirus et à une quarantaine obligatoire à leur retour. Le ministère des Affaires étrangères se base sur les chiffres et les analyses du ministère de la Santé pour décider quelles villes, régions ou pays sont à classer en vert, aucun risque, en orange, risque limité, ou en rouge, risque élevé. Certains classements ont donné lieu cet été à des polémiques et discussions diplomatiques. Des régions touristiques suisses ont ainsi obtenu gain de cause ce mois-ci, passant du rouge au vert en 48 heures.
Lax Milota à Bruxelles pour France Culture. La situation est de plus en plus crispée dans l'est de la Méditerranée où les voisins turcs et grecs se disputent le partage des ressources en hydrocarbures ensevelies sous ces fonds marins. Ces dernières semaines, la rivalité a pris la forme d'une démonstration de force. La Grèce et la Turquie ont chacune déployé des navires dans la zone, notamment des navires de guerre, et se défient à coups d'exercices militaires rivaux. La Grèce, la France, l'Italie et Chypre ont ainsi lancé aujourd'hui et jusqu'à vendredi un exercice militaire conjoint au sud de la Crète et de Chypre. Et c'est dans ce contexte que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a prononcé aujourd'hui un discours particulièrement offensif, discours qu'a écouté pour nous Anand Lower à Istanbul.
Recep Tayyip Erdogan continue de souffler le chaud et le froid en Méditerranée orientale avec un principe clair, répété à chacun de ses discours, c'est-à-dire chaque jour. La Turquie ne cédera pas, elle ne retirera pas ses bateaux de recherche d'hydrocarbures et les navires militaires qui les escortent des zones maritimes revendiquées par la Grèce. Les mots sont forts, faits pour pousser Athènes et ses alliés à reculer, autrement dit à négocier.
Kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz.
Nous ne ferons absolument aucune concession sur ce qui nous appartient. Nous invitons nos interlocuteurs à se reprendre et à se garder de toute erreur qui ouvrirait la voie à leur ruine. Nous voulons que tout le monde réalise que la Turquie n'est pas un pays dont on peut tester la patience, la détermination, les moyens et le courage.
Recep Tayyip Erdogan va même un peu plus loin en mettant ses rivaux au défi.
Si nous disons que nous allons faire quelque chose, nous le ferons, quoi qu'il nous en coûte. Si certains sont prêts à payer le prix pour nous affronter, qu'ils viennent. Sinon, qu'ils s'écartent de notre chemin et nous laissent gérer nos affaires.
En fait, les autorités turques veulent négocier avec la Grèce, probablement via une médiation européenne, car elles savent qu'elles n'ont aucun intérêt à ce que la crise dégénère et qu'un incident majeur se produise. Mais elles veulent entamer ces négociations sans préconditions grecques et en position de force, ou du moins donner cette image à leur opinion publique.
Les gardes-côtes grecs ont entrepris la nuit dernière une opération de sauvetage d'un yacht naufragé au large de l'île grecque de Halki. 96 personnes ont été secourues. L'opération se poursuit pour repérer les éventuelles personnes portées disparues. Ces personnes, des migrants, avaient embarqué depuis les côtes turques voisines en direction de l'Italie. Aux États-Unis, les tensions ne font que monter dans le Wisconsin depuis dimanche. À Kenosha, la diffusion d'une vidéo montrant Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par des tirs policiers et probablement paralysé à vie, a entraîné 3 soirées de manifestations émaillées de violence. On retrouve notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir.
La nuit dernière, 2 hommes ont été tués par balle.
Oui, sur ces images tournées un peu avant minuit dans le centre-ville de Kenosha, on voit effectivement un homme armé d'un fusil automatique poursuivi par des protestataires. Il tombe à terre et ouvre le feu à plusieurs reprises avant de se remettre à courir et avant l'arrivée des policiers anti-émeutes. Alors, les circonstances ne sont pas très claires. Selon le New York Times, l'auteur des coups de feu appartient à une milice armée qui, depuis 3 nuits, patrouille dans la ville pour protéger les commerces et les habitations. Vous le voyez, Aurélie, la tension ne retombe pas dans cette ville de 100 000 habitants située sur les rives du lac Michigan et qui redoute ce soir une 4e nuit de violence. Le gouverneur, un démocrate, a décrété l'état d'urgence et les réservistes de la garde nationale ont été déployés pour tenter de ramener le calme.
Alors ces événements de Kenosha font bien sûr écho à la mort de George Floyd il y a 3 mois à Minneapolis et relancent la mobilisation contre le racisme alors même que les États-Unis sont en pleine campagne présidentielle. Est-ce que ça vient percuter la campagne, Grégory ? Quel est l'impact politique ?
Alors écoutez, la situation dans le Wisconsin a été évoquée hier soir lors de la 2e soirée de la convention républicaine qui s'est ouverte par une prière, par des vœux de rétablissement pour Jacob Blake, mais aussi une prière pour la police. Ça c'est dans le camp républicain. Côté démocrate, le candidat Joe Biden a réclamé une enquête rapide et approfondie, estimant que les policiers impliqués devront rendre des comptes. Et puis ce vendredi à Washington, c'est-à-dire au lendemain de la convention républicaine et quelques heures après le discours dans lequel Trump acceptera l'investiture de son parti, eh bien, est prévue une marche contre les violences policières et contre les inégalités raciales. Manifestation initiée 57 ans après la marche sur Washington de Martin Luther King. La famille de Jacob Blake, celle de George Floyd et celle des autres victimes devraient participer à ce rassemblement qui se tiendra à quelques rues seulement de la Maison Blanche. Ce sujet des violences policières et des discriminations sera central dans les 2 mois qui viennent jusqu'au 3 novembre.
Grégory Phillips en direct de Washington. Comme décidé par Donald Trump, la reprise des exécutions fédérales se poursuit aux États-Unis. 3 condamnés ont été mis à mort depuis juillet, soit autant que depuis 1988 et le rétablissement de cette sentence. Un 4e le sera aujourd'hui au pénitencier de Terre Haute, dans l'Indiana. Avec une particularité, il est le seul Amérindien à être emprisonné dans un couloir de la mort fédérale. La correspondance de Loïc Loury.
La condamnation à mort de Lesmond Mitchell est un affront à la souveraineté navarro. Cette phrase, signée de l'un des représentants du peuple amérindien dans le New York Times, résume le bras de fer qui doit se conclure aujourd'hui avec l'exécution de cet homme de 38 ans. Et il y a près de 20 ans, lors d'un vol de voiture, il avait poignardé à mort une femme de 63 ans avant d'égorger sa petite fille. Des faits qui s'étaient déroulés sur le territoire navarro, dans l'Arizona. Les 2 victimes, elles aussi étaient membres de cette tribu. Pour ces raisons, les responsables communautaires estiment que la justice fédérale aurait dû obtenir leur approbation pour exécuter Lesmond Mitchell en vertu d'une loi de 1994. Or, les Navarros refusent d'appliquer la peine de mort aux Amérindiens et réclament la perpétuité. Le président de la nation Navarro a bien appelé Donald Trump à faire le nécessaire par respect, dit-il, pour les croyances religieuses et traditionnelles de la tribu. Mais le gouvernement, jusque-là, semble être resté sourd à ses appels. Lesmond Mitchell devrait être le 4e détenu fédéral à subir une injection létale cet été.
Loïc Loury à New York. La lauréate du prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, était convoquée aujourd'hui par des enquêteurs biélorusses. Ils lui ont demandé de s'expliquer sur sa participation au Conseil de coordination de l'opposition qui réclame le départ du président Loukachenko et une transition du pouvoir. L'écrivaine a refusé de répondre à leurs questions, expliquant qu'elle ne se sentait coupable de rien et que le Conseil de coordination biélorusse n'avait pas d'autre objectif que de consolider la société. La météo, un temps pluvieux s'installera demain matin de la Bretagne à la Normandie. Sur la moitié nord, le ciel sera nuageux, mais les éclaircies gagneront du terrain dans l'après-midi. Dans le sud, la journée sera généralement ensoleillée. Des températures en baisse le matin sur la moitié nord, 10 à 14 degrés, 14 à 26 dans le sud. L'après-midi, il fera 20 à 28 de la Bretagne à l'Alsace, 26 à 35 en allant vers la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.